Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous ai écouté chanter, vous chantiez tous. Nous avons tous chanté « Je veux que ma vie soit remplie ». Les deux derniers mardis où j'ai prêché, j'ai utilisé cette expression que Jésus utilise, cette fois dans le Nouveau Testament, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. On va juste lire le texte qui nous intéresse pour comprendre une pensée. C'est dans Matthieu, le troisième texte, Matthieu chapitre 13, verset 45, 7. C'est la parabole du filet pour nous indiquer ce que j'enseignais dimanche matin, à savoir que dans l'église de la fin des temps, les méchants et les justes seront ensemble et qu'on n'a pas, nous, la capacité de séparer. Matthieu 13, 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses ? Oui, répondirent-ils. Amen. Une question que Jésus pose pour nous permettre justement de réfléchir si on comprend bien ce que l'on entend. Donc, le Seigneur Jésus parle dans ce texte qu'il y a deux catégories de chrétiens. Il y a ceux qu'il appelle les méchants, ceux qui n'ont plus de communion avec Dieu, et les justes, ceux qui continuent à chercher Dieu. Ceux qui continuent, comme je l'espère la majorité ou même l'unanimité ce soir dans ce lieu, qui continuent à vouloir plaire à Dieu. Les méchants doivent revenir à Dieu, ce sont tous les chrétiens qui n'ont que l'apparence de la piété. Hélas, hélas, nous sommes meurtris lorsque nous savons le témoignage lamentable que ces croyants peuvent rendre. Donc, à la fin des temps, à la fin du monde, quand Jésus viendra chercher l'Église, eh bien hélas, il y aura ce mélange. C'est triste comme tout, mais c'est Jésus qui l'a enseigné. Alors, si vous étiez dans ce cas de figure où vous n'avez plus de communion avec Dieu, ressaisissez-vous. Et tout à l'heure, alors que nous allons prier pour ceux qui auront besoin de la grâce de Dieu, avancez-vous, n'ayez pas honte. Vous savez, le Seigneur Jésus dit que le méchant retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, car notre Dieu ne se lasse pas de pardonner. C'est écrit dans Isaïe 55. Le Seigneur n'abandonne pas le méchant. C'est le méchant qui abandonne Dieu. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Dieu n'abandonne pas les gens. C'est les hommes qui abandonnent la foi. Il est hors de question que Dieu change d'avis à ce sujet. Donc, les méchants, ce n'est pas notre affaire ce soir. Notre affaire ce soir, ce sont les justes. Les justes qui veulent être bouillants pour le Seigneur. Vous avez avec moi chanté « Seigneur, ce que mon cœur réclame, c'est le feu ». Vous avez chanté « Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit ». Jérémie a posé cette question, et c'est Dieu qui la pose par le prophète. « Ma parole n'est-elle pas comme un feu ?» Le méchant, lui, ne s'intéresse pas de l'avancement de l'œuvre de Dieu. Le méchant, lui, n'en a que faire du salut des âmes ou de l'édification de l'Église. Ce n'est pas son problème, ça. Le méchant, il pense à ses intérêts. Le juste, lui, il pense au salut des âmes. Il pense à plaire à Dieu. Le juste, il pratique la justice. Et le juste, il veut être bouillant. Et je crois que ce soir, vous voulez être bouillant. Est-ce que c'est important pour vous? Ce n'est pas une option, dit, tiens, ça serait bien qu'on soit bouillant, peut-être que ça serait peut-être bien pour ma vie personnelle. Non, non, non. Ce n'est pas une question d'émotion intéressante. Tiens, je serais peut-être mieux, j'aurais moins le cafard que si je n'étais pas bouillant. Non. Si je suis bouillant, je suis utile à l'œuvre de Dieu. Alors, on va faire trois ou quatre lectures ce soir pour comprendre l'importance d'être bouillant. Vous connaissez le reproche que Jésus adresse à l'église d'Éphèse. Voilà, peut-être que vous avez eu l'occasion d'aller déjà en Turquie visiter la ville d'Éphèse, non ? Hein ? Dans Éphésiens, dans l'Apocalypse, au chapitre 2, il y a une église en Asie mineure, qui est aujourd'hui bien sûr la Turquie, et il y a l'apôtre Paul qui a fait un travail extraordinaire dans cette ville, mais voilà, cette église a des choses formidables. On va lire le texte. Voilà, ces textes, je vous encourage à les relire chez vous parce qu'ils nous permettent quand même de méditer et de comprendre. Apocalypse, chapitre 2, verset 1er. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Regardez bien cette église. Tous les pasteurs aimeraient être dans cette église. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants.
que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Est-ce que c'est une bonne église? Franchement, est-ce que c'est une bonne église? On ne va pas quand même tout jeter, c'est quand même une bonne église. Aux yeux humains, c'est une bonne église, c'est une assemblée qui s'est appliquée. Elle a vraiment été sérieuse avec Dieu. Et pourtant, il y a quelque chose qui a été négligé. Verset 4, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. » Je vous assure, la première fois que j'ai médité, j'ai compris que l'abandon du premier amour, c'était une chute. C'est pas comme on dit, oh, c'est pas grave si je suis pas bouillant comme au début. Jésus dit, souviens-toi d'où tu es tombé et pratique tes premières œuvres. Vous avez vu, sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne repentes. Et si c'est ce qui s'est passé au travers des siècles, quand les églises se sont endormies, quand l'amour s'est refroidi, eh bien Dieu a suscité un autre mouvement. Ça nous paonnait, excusez-moi l'expression, mais ça peut nous arriver. Si nous ne veillons pas, si nous ne retrouvons pas ce feu, si nous ne sommes pas bouillants pour Dieu, Dieu peut susciter d'autres églises qui vont amener la bénédiction sur les âmes perdues. Est-ce que vous savez que ça peut arriver, même un mouvement de Pentecôte? Il ne faut pas avoir peur de le dire. On est sous le regard de Dieu, on est honnête. Et Dieu est formel. Si tu ne te repens pas, j'ôterai ton chandelier. Ça veut dire que la lumière sortira de l'église, de notre mouvement. Et je ne voudrais pas que nous en arrivions là, quoique nous en sommes pas très loin, je le dis avec beaucoup de peine. Mais ce soir, nous croyons que nous avons un Dieu qui nous aime, nous avons un Dieu qui veut que nous écoutions. Chaque lettre se termine par cette parole du Seigneur que celui qui a des oreilles entende. Souviens-toi d'où tu es tombé. Qu'est-ce que c'est qui a provoqué cette chute dans cette église? Franchement, formidable, dans cette église où il y a vraiment un travail qui se fait, il persévère, enfin on l'a lu, il y a une parole de Jésus, souviens-toi d'où tu es tombé, c'est à nous de réfléchir, où c'est que j'ai perdu mon premier amour, qu'est-ce que c'est qui m'a fait chuter, qu'est-ce que c'est qui m'a perdu, bah, peut-être perdu entièrement, c'est quand même les enfants du Seigneur, ils ne sont pas voués à l'enfer. Ils sont en train d'empêcher le Saint-Esprit d'agir, même s'ils font certaines choses. Mais qu'est-ce que c'est qui peut... Quelle épreuve m'a piégé? Est-ce qu'une épreuve peut nous piéger? Eh ouais, on n'est pas à l'abri. Une épreuve, une contrariété. Notre frère, notre jeune pasteur parlait de cette... Vous voyez, en Afrique, là, cette sœur, heureusement que ça s'est réconcilié, si elle avait gardé de l'amertume dans son cœur parce qu'il y avait eu un problème de racisme dans l'Église, elle aurait pu tomber dans l'amertume et tomber. Tomber. Quelle épreuve, quelle tentation m'a mené à chuter? Je ne sais pas. Il y a tellement de choses qui peuvent nous amener à tomber, pour reprendre l'expression que Jésus utilise dans cette affaire. Quelle ruse de l'adversaire! Parce que l'adversaire, vous croyez qu'il en a des ruses pour nous faire tomber? Vous croyez qu'il en a des méthodes? La Bible parle des ruses et des méthodes de l'adversaire. Comment ce feu s'est-il éteint? Le feu du premier amour. Alors on va voir un exemple d'un homme qui s'est fait piéger. C'est Timothée. Timothée, quand Paul parle de lui, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de très bien. Et pourtant, il s'est passé quelque chose dans la vie de Timothée. Regardez avec moi dans 2 Timothée au chapitre 1er. C'est écrit, ça a été écrit pour nous enseigner que certaines choses peuvent nous intimider et nous faire perdre le feu. C'est pour ça que Paul écrit, de la part du Seigneur, à ce jeune pasteur d'ailleurs, 2 Timothée, chapitre 1er, verset 6, il parle de sa famille, il y a vraiment une bénédiction sur cette famille. Il considère d'ailleurs ce pasteur comme son fils, au début il le lui dit. Mais regardez, 2 Timothée, chapitre 1er, verset 6, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. » Amen. Timothée a connu une épreuve. S'est-il fait piéger par une situation? Peut-être, je ne sais pas, moi, dans l'église où il était, quelqu'un lui a-t-il fait une remarque qu'il a complètement intimidé? Voyez, là, si Paul dit « Je t'exhorte à ranimer la flamme », c'est que le don s'était mis en sommeil. Et c'était pourtant un serviteur de Dieu. Et je crois, mes frères et sœurs, que pour plusieurs parmi nous, nous avons besoin d'entendre ces choses ce soir.
que Dieu vous exhorte à ranimer la flamme, parce que nous voulons être remplis du Saint-Esprit. C'est d'accord ? Vous êtes d'accord avec ce que vous avez chanté ? Vous croyez que par la puissance du Saint-Esprit, toute l'œuvre de Dieu peut se faire ? Toute son œuvre peut se faire. Et que c'est sa volonté. Et Timothée avait dû se faire piéger. C'est une exhortation, c'est un encouragement. Qu'est-ce qui a intimidé Timothée ? Qu'est-ce qui l'a intimidé ? Qu'est-ce qui peut nous intimider ? Il y en a des choses. Vous savez, j'ai lu dernièrement la citation d'un homme de Dieu. Il a écrit ça en 1795. La seule chose qui soit nécessaire pour voir le mal triompher, c'est que les hommes bons ne fassent rien. Vous avez entendu ? Je répète. La seule chose qui soit nécessaire pour voir le mal triompher, c'est que les hommes bons ne fassent rien. Et à partir du moment où les chrétiens sont éteints, le mal triomphe. Vous me comprenez, frères et sœurs ? Timothée était quelqu'un de sérieux. Et je crois que dans l'Assemblée, il y a beaucoup de gens sérieux, qui sont honnêtes, qui sont vrais, qui veulent véritablement avancer dans les voies de Dieu, qui veulent le servir, etc. Mais Timothée, malgré tous ces aspects qu'il avait, comme plusieurs parmi nous, est tombé dans la timidité. Il y a quelque chose qui a dû le contrarier. Vous savez, imaginez quelqu'un qui prie pour la première fois, si on va lui faire une remarque. « Oh, tu as mal prié. Est-ce que ça ne peut pas le décourager, par exemple ?» Hein ? C'est pour ça, ne soyez pas. Et si on vous fait une réflexion, ça peut arriver. Mais moi, je me suis réjoui ce soir. J'ai entendu plusieurs personnes que je n'avais jamais entendu prier. Eh bien, franchement, ça m'encourage. Et je crois que tout le monde est encouragé. Et c'est pour ça, vous qui êtes venus ce soir, c'est un encouragement. Et il y a des choses qui peuvent nous intimider. Vous savez, les croyants timides ou les croyants intimidés, ils perdent l'occasion de servir Dieu. J'ai cherché dans le dictionnaire Larousse, vous voyez, pour vous dire. Intimidé, la définition du mot intimidé, inspiré de la crainte. Pas la crainte de Dieu. Faire perdre son assurance. Vous voyez, quand quelqu'un est intimidé, il perd son assurance. Troisième définition, rempli de gêne, de timidité. Quelqu'un qui est intimidé, il est gêné. Il a peur des autres. Et ça, il y en a un qui s'applique à le faire. L'intimidation, c'est presque pareil, mais action d'intimider, menace, pression. Quelqu'un qui a peur des autres, qui se sent en danger à cause de sa timidité. Et donc, le but de l'intimidation que le diable provoque, c'est de nous empêcher d'agir. Pourquoi il n'y a plus de réunion de prière ? Parce qu'il n'y a plus personne qui prie dans les églises. Est-ce que vous comprenez ? Et le tour est joué. Et l'ennemi a gagné. L'intimidation cherche à nous écraser, voyez, à nous faire sentir inférieurs. Non, mais moi je prie pas, je suis pas comme eux. Et alors ? Bien sûr que, heureusement que vous n'êtes pas comme eux. Heureusement qu'on n'est pas tous pareils. Heureusement qu'on ne se ressemble pas. Bien sûr qu'il faut de l'ordre et de la bienséance. Mais moi, je vous exhorte ce soir à ranimer la flamme, à retrouver ce feu ou à trouver ce feu, à le découvrir, à faire une expérience par le baptême du Saint-Esprit. Qui c'est qui est à l'origine de la crainte ? C'est toujours le diable. Quand est-ce que l'homme a eu peur pour la première fois ? Vous vous rappelez ? Dans le jardin d'Éden, quand ils ont péché, ils ont eu peur. Ils ont eu peur de Dieu. Ils se cachaient de Dieu. Où es-tu ? La première question de Dieu dans la Bible, où es-tu ? Dieu savait très bien où ils étaient, mais c'était pour retrouver le contact. Et Dieu veut retrouver le contact avec vous, ou l'améliorer. Vous savez, une parole peut nous décourager. Quelque chose, on ne le sait pas, ça ne nous regarde pas, mais en tous les cas, on le sait. Quelque chose a impressionné ce pasteur. Et il a perdu ce feu. Je t'exhorte à retrouver ce feu, à ranimer ce feu, dit l'apôtre Paul. Parce que pour exercer le ministère, pour servir Dieu, où Dieu nous a placés, il faut que nous ayons ce feu. Vous vous rappelez le prophète Élie ? Est-ce qu'il n'était pas, lui, rempli du Saint-Esprit ? Tout ce qu'il a fait pour Dieu, je ne prends pas le temps de le résumer. Tout ce que cet homme a fait pour Dieu, jusqu'à ce qu'il fasse descendre le feu du ciel. Dans la foulée, il va prier, il va faire tomber la pluie du ciel au bout de 3 ans et demi qu'il n'avait pas plu. Et il a prié, il a fait descendre la pluie. Quand il a vu la pluie arriver, il a couru plus vite que le char du roi. Il était rempli du Saint-Esprit. Et le lendemain, ou le soir même, une parole,
l'a terrorisé. Une parole, et il a fui, il s'est isolé, il a été découragé. Vous voyez, c'est ça l'intimidation. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas blesser les gens, à toujours avoir des paroles encourageantes. Est-ce que c'est important pour vous d'encourager les autres ? De faire du bien aux autres, dans votre maison, dans votre famille, là où vous êtes. On est entouré que des gens qui découragent souvent. C'est pas vrai ? Dans le monde, vous pouvez travailler avec des gens toujours négatifs, tout le temps en train de se plaindre, tout le temps en train de râler. Alors des fois, c'est pas méchant, mais dans le domaine spirituel, il ne faut pas que ça gagne l'Église. Il ne faut pas que ça nous touche. Cet homme de Dieu, ce grand homme de Dieu, quand même, il faut dire les choses comme elles sont, il s'est fait piéger et c'est ce que le diable voulait. Par une parole. Et heureusement que Dieu a su le rattraper, Dieu a su le rejoindre, Dieu a su lui parler, Dieu a su le restaurer. Heureusement que le Seigneur, il ne nous abandonne pas quand on fuit. Mais ça peut être dangereux cette affaire. Et cet homme a retrouvé l'onction et il a amené l'onction sur les autres. J'aimerais vous lire deux versets, s'il vous plaît, lisons-les ensemble. Notez-les dans votre Bible, même s'il le faut. Dans le Proverbe 24 et dans le Proverbe 11, il y a deux versets qui nous montrent combien la connaissance est importante. Proverbe 24, verset 5. La sagesse et la connaissance. Alors, c'est ou la science ou la connaissance, mais c'est le même mot, ça dépend des versions. Proverbe 24, verset 5. Un homme sage est plein de force, et celui qui a de la science, ou alors de la connaissance, affermit sa vigueur. Proverbe 11, c'est important ces choses. Regardez bien, Proverbe 11, la deuxième partie du verset 9. Proverbe 11, la dernière phrase. Les justes, vous rappelez que j'ai commencé avec les justes et les méchants. Les justes sont délivrés par la science ou par la connaissance de la version Darby. Les justes sont délivrés par la connaissance. Qu'est-ce que Paul adresse à Timothée pour qu'il soit délivré de cette timidité ? On l'a lu, hein ? Au verset 7, si vous n'avez pas perdu le texte. Qu'est-ce que Paul dit à Timothée qui s'est fait piéger ? Je suis sûr que c'est par une parole de quelqu'un. C'est pas écrit, mais j'en suis sûr. Il a été peut-être blessé par quelqu'un, par un frère, par une sœur, par quelqu'un de l'Église qui lui a fait du mal, comme c'était un jeune pasteur. Il a peut-être fait une erreur. Est-ce qu'on peut faire des erreurs quand on est jeune ? Est-ce qu'on peut faire des erreurs quand on est moins jeune ? Hein ? Bien sûr qu'on en fait. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand même, ne pas être trop sévère. Il faut savoir encourager les gens et leur faire une petite remarque. Veillons là-dessus. Alors, Paul adresse la solution à Timothée, car, verset 7, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit donc de trois vertus, de force, d'amour et de sagesse. L'amour, la force et la sagesse. Est-ce que vous priez pour avoir de la sagesse ? Est-ce que vous en demandez de la sagesse au Seigneur ? Est-ce que vous y pensez souvent à dire, Seigneur, donne-moi de la sagesse, j'en ai pas suffisamment, ou je réalise que j'en ai pas beaucoup. Est-ce que vous demandez de la sagesse au Seigneur ? Vous savez, c'est quelque chose que l'on peut demander à Dieu. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Qu'est-ce que la sagesse ? Est-ce que c'est la connaissance des Écritures ? Est-ce que je connais toute la Bible par cœur, dont je suis un type plein de sagesse ? Les disciples étaient de simples pêcheurs. Oui ou non ? C'était des pêcheurs. Et le Sanhédrin lui-même a été étonné de leur sagesse. Regardez avec moi, il faut bien comprendre ce que c'est la sagesse. Parce que dans un monde où l'intellect prend beaucoup de place, il faut faire attention. La sagesse dans la Bible, ce n'est pas l'instruction. La sagesse, on va le lire. La sagesse, acte 4, 13, c'est important, parce que si on veut être baptisé du Saint-Esprit, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Si vous étiez là samedi à la réunion de jeunesse, le pasteur Gadrois, donc le papa de Jérémie, a été refusé à l'école biblique, c'est bien ça, si je ne me trompe pas, parce qu'il n'avait pas le bac. C'est ça. Eh bien moi aussi, vous voyez, je n'aurais pas pu faire l'école biblique. Ouais, c'est grave. Mais c'est grave. Mais c'est vraiment grave. J'exagère ou non ? Mais moi, j'aurais pas pu aller à l'école biblique. Acte 4, 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, rappelez-vous, c'était des pêcheurs, hein, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple, sans instruction. Mais regardez la suite. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Vous savez, quand on est avec Jésus, il s'en passe des choses. Quand on cherche le Seigneur, quand on cherche sa présence, il peut s'en passer des choses. Mais là, vous avez la preuve dans ce texte que la sagesse n'a rien à voir avec l'instruction. La sagesse, c'est une question d'onction, de puissance de Dieu. Regardez, quand il est parlé d'Étienne, Étienne, il servait aux tables dans l'église primitive. Il servait aux tables, et pourtant dans Actes au chapitre 6, regardez ce qui est dit de cet homme. Actes chapitre 6, verset 10. C'était un homme simple de la rue, hein, qui est devenu frère, regardez. Mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Vous vous rendez compte? Cette sagesse-là, elle n'est pas naturelle. Elle vient par la pensée du Christ. C'est pour cela qu'il faut demander au Seigneur, accorde-moi ta sagesse. Bien sûr, c'est bien d'avoir de l'intelligence et de l'instruction, on peut concilier les deux. Mais connaître l'Écriture, c'est une chose, connaître la pensée du Christ, c'est autre chose. Et si nous voulons véritablement être utiles entre les mains de Dieu, il faut connaître la pensée du Christ. C'est pour ça que nous avons besoin de moments de solitude avec Dieu, où là, dans la prière, dans un moment de communion, un texte de l'Écriture, une pensée s'impose à notre cœur. L'apôtre Paul a écrit ailleurs, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et il faut faire attention, mes frères et sœurs, que l'enseignement de la parole de Dieu ne soit pas juste pour notre autosatisfaction. C'est bien d'apprendre, mais ça n'a rien à voir avec la sagesse qui vient du Seigneur. On a la pensée du Seigneur. Les pharisiens, est-ce qu'ils ne connaissaient pas les Écritures? Qui mieux que ces gens-là connaissaient l'Écriture par cœur? Et pourtant, partout où ils passaient, ils produisaient la mort. Partout où ils passaient. La mort spirituelle, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils prêchaient, ils éloignaient les gens de Dieu. Enfin, Jésus a été sévère avec les pharisiens. Jésus a été sévère, pour ainsi dire, qu'avec les pasteurs de l'époque, qu'avec les hommes religieux de l'époque. S'il n'y a qu'eux qu'il a traité d'hypocrites, il n'a pas traité les pécheurs d'hypocrites. C'est les pharisiens qui connaissaient la loi de Dieu, mais ils tuaient les gens spirituellement à la place de leur communiquer la vie. C'est terrible. Ils séparaient le peuple de Dieu à cause de leur légalisme. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Regardez les pharisiens, regardez Siméon. Siméon, vous connaissez Siméon? Et il nous est parlé de lui, il était là, comme par hasard, le jour où on a présenté Jésus dans le temple. Luc chapitre 2. Quelle affaire! C'est ça que nous voulons, mes frères et sœurs. C'est ça que j'espère que vous voulez. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui dit, oh, moi je veux faire l'expérience de Siméon? Il y a quelqu'un qui veut la faire, cette expérience? Pour actualiser, bien sûr. Luc 2, verset 25. Voici. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Vous vous rappelez le début? Juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y avait? Vous y êtes? Et qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit Saint était sur lui. Ah, c'était pas un pharisien, c'était pas un prêtre, c'était un homme du peuple. L'Esprit Saint était sur lui. Conséquence, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, regardez bien, c'est pas beau ça? Il le reçut dans ses bras. Il y avait peut-être des milliers de gens au temple. Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Et puis après, il va prophétiser sur Marie. Jésus, il a 8 jours. Il a 8 jours. Et quand cet homme le voit, il sait que c'est le Messie. Que le nom du Seigneur soit béni. Il a eu la joie, cet homme, avant de mourir, de porter Jésus dans ses bras. C'est pas beau? Pourquoi? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Il n'avait que 8 jours et lui, il l'a reconnu. Et les pharisiens qui connaissaient, je le répète, la loi par cœur, ils ont vu Jésus à 30 ans faire des miracles, ressusciter des morts, guérir les malades, purifier les lépreux. Ils n'ont même pas reconnu que c'était le Fils de Dieu.
Vous vous rendez compte? L'aveuglement auprès de ces pharisiens qui ont même tout fait pour qu'ils soient crucifiés. Comme quoi, voyez, la religion, elle éloigne les gens de Dieu. La religion, elle détruit l'œuvre de Dieu. Mais la sagesse qui vient par le Saint-Esprit, elle nous fait porter l'œuvre de Christ. Parce que si Siméon a porté Jésus dans ses bras, nous, on peut porter l'affaire du Seigneur aussi. C'est pas vrai qu'on peut porter l'affaire du Seigneur? Est-ce que vous êtes intéressé dans cette assemblée à ce qu'on porte l'affaire du Seigneur à Toulouse? Vous voulez pas qu'on porte la... Est-ce que Dieu voit ce soir? Il voit les églises, Seigneur, à Toulouse. Est-ce qu'il voit les églises? Il voit. Et il voit comment vous réagissez à cette prédication, comment vous dites, oh mais c'est vrai, c'est pour moi, je me suis laissé piéger par la timidité, je suis complètement paralysé, oh je suis comme Timothée, j'ai besoin de cette exhortation, j'ai besoin de comprendre que c'est pas la théologie qui va m'amener à la victoire, mais que c'est cette sagesse d'en haut, cette onction du Saint-Esprit. Vous vous rendez compte, cet homme il est là, il est pieux, il est juste, il cherche Dieu, il est conduit par le Saint-Esprit, il avait été averti par le Saint-Esprit. Le résultat, c'est que c'est peut-être le seul à avoir porté Jésus dans le temple lorsqu'il avait 8 jours. Quelle affaire! Dans le ciel, il va nous le dire, ça c'est moi qui portais Jésus. Je plaisante. Mais quelle histoire merveilleuse! Quelle histoire merveilleuse, mes frères et sœurs! Pourquoi? Parce qu'il était très instruit? Non, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. C'est par la puissance du Saint-Esprit qu'il a reçu cette révélation. Mes frères et sœurs, est-ce que nous demandons au Seigneur de la sagesse? C'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Vous n'avez pas le droit de dire, ah, mais moi, je suis timide. Je suis désolé. Si vous avez accepté Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur, la timidité, c'est quelque chose que vous devez dominer. C'est pas vrai? Il faut la dominer. Dieu vous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ou alors, vous n'avez pas reçu le Seigneur Jésus. La timidité, c'est à nous de la contrôler. C'est à nous de dire, oui, je suis peut-être moins, moins fort que les autres, je suis moins peut-être hardi que les autres, mais j'ai reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et cet esprit-là, je veux le faire valoir. Je vous dis, c'est bien que ce soit écrit, c'est bien que ce soit arrivé à un jeune serviteur de Dieu, ça nous montre que nous sommes tous au même niveau, nous pouvons tous nous faire piéger. Mes frères et sœurs, demandons à Dieu de la sagesse. Quand vous priez le matin, quand vous faites votre culte dans votre chambre ou dans votre salon, demandez, Seigneur, donne-moi de la sagesse, remplis-moi de sagesse. Vous serez de plus en plus remplis du Saint-Esprit avec des paroles de sagesse. Parce que quand vous croiserez quelqu'un dans la rue, sans vous en rendre compte, combien de fois on vous a dit, ah tu sais, tu m'as fait du bien ce jour-là. On vous a jamais dit ça? Ah tu sais, tu m'as rencontré, ah tu m'as dit ça, ça m'a fait du bien. Ah bon? Mais je crois que le Seigneur nous donne des paroles de sagesse. Est-ce que demain dans la rue, Dieu peut vous donner une parole pour quelqu'un? Une parole de réconfort qui va le remettre sur... Peut-être vous allez lui dire juste, eh bien, sujet, allez, fortifie-toi. Oui, je te maintiens pour la force, un esprit de force. Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissance. Puissante. Un chrétien, injuste, les justes et les méchants. Et je termine. Mais à quoi on reconnaît les justes des méchants? Nous, on n'a pas à faire le tri, ça c'est sûr. Mais Dieu le sait. Et les justes, ce sont ceux qui cèdent aux commandements du Seigneur. Celui qui a mes commandements, c'est celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. Le juste, il dit, ah bon? Dieu me demande de me fortifier par sa force. Comment ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Éphésiens 6, 10 à 20 et quelques. Ah, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu? Alors je vais me revêtir. Je vais prier par le Saint-Esprit. Il y a longtemps que je ne parle plus en langue dans mes prières. Seigneur, je veux, dans ma chambre, prier en langue. Est-ce que Dieu peut vous utiliser? Est-ce que, quand même, on n'en parle pas souvent, mais la Bible nous encourage à prier en langue à la maison. C'est écrit dans la Bible? Hein? Pas en public, s'il y a des inconvertis, mais en privé, ou s'il n'y a que des chrétiens, quand même, c'est écrit. Dès qu'il y a des inconvertis, il faut faire attention, parce que la Bible dit qu'on va paraître pour des fous, parce que c'est quelque chose de surnaturel. Mais quand même, Paul dira, mais moi je parle la langue plus que tous. Pourquoi? Parce que mais Jésus, c'est lui. Est-ce que ça lui a servi? Moi je crois que oui. Mes frères, mes sœurs, Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Est-ce qu'on veut le faire valoir cet esprit-là? Est-ce qu'on veut le faire valoir demain matin? Seigneur, je veux prendre une Bible, je veux acheter des évangiles, je veux m'en procurer, je veux pouvoir les donner. Seigneur, accorde-moi cette grâce.
je veux me fortifier dans le Seigneur. Et bon, là, un amour, un esprit d'amour, je n'en parlerai pas ce soir. Mais la Bible dit rechercher l'amour. On a besoin d'amour, pas le nôtre, celui qu'on avait avant la conversion. Avant la conversion, est-ce que vous aimiez les gens? Est-ce que vous aimiez vos amis avant votre conversion? Vous aviez des amis avant votre conversion? Les publicains, ils ont des amis. Les publicains, Jésus a dit, mais ils agissent d'eux-mêmes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel bien extraordinaire vous faites. Les publicains agissent d'eux-mêmes. Mais l'amour, peut-être que vous n'en avez pas. Pas de l'amour humain, mais l'amour spirituel. Si la Bible dit rechercher l'amour, moi je crois que dans la présence de Dieu, on parlait d'un quelqu'un de raciste, ça peut arriver, ça peut arriver. Seigneur, donne-moi de l'amour. Donne-moi de l'amour, Seigneur, pour les étrangers. Peut-être que vous avez vécu une expérience douloureuse à cause d'un étranger. Ça peut arriver, il ne faut pas critiquer. Seigneur, donne-moi de l'amour. Donne-moi ton amour. C'est facile d'aimer son mari, d'aimer sa femme, d'aimer ses enfants, c'est clair. C'est pas compliqué. Mais Seigneur, donne-moi de l'amour pour les gens avec qui je travaillerai demain. Donne-moi de l'amour pour mes voisins qui font du bruit le samedi soir. Ça arrive, ça. Il y a un soir, moi, j'ai des voisins, tous les samedis soirs. Alors que moi, je me lève à 5h du matin, jusqu'à 4h du matin, la sonne à fond. Et je me suis dit, tu vas y aller. Un yalan, j'ai dit, non, il faut être gentil. Et je leur ai parlé avec amour. Mais des fois, on aurait vite fait, c'est pas vrai, enfin, je sais pas vous. On aurait vite fait, des fois, de rechercher l'amour. Dieu nous a donné son esprit. Est-ce que nous voulons vraiment réclamer le baptême du Saint-Esprit? On va fermer les yeux. Je vous assure, on va prendre quelques minutes. Peut-être quelqu'un veut être baptisé du Saint-Esprit. Peut-être que vous allez l'être maintenant. Peut-être que vous allez l'être en rentrant chez vous. Peut-être que vous le serez demain matin. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est un baptême de la présence de Dieu. Alors, puisque nous avons quelques minutes d'avance, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ce soir dire, moi je veux être délivré de cet esprit de timidité? C'est peut-être un esprit de crainte. C'est peut-être un esprit de misère. Peut-être vous avez de la haine, de l'amertume. Peut-être que vous n'arrivez pas à pardonner. Peut-être que vous n'arrivez pas à aimer. Peut-être que vous n'arrivez pas. Dieu est venu délivrer les captifs. Ce soir, on n'est pas dans la religiosité. On est dans la grâce de Dieu. Jésus, il est venu délivrer les captifs, libérer les malades, guérir les opprimés, changer le deuil en allégresse. Oh, ce soir, celui qui boira au torrent, comme dit le psaume, il relèvera la tête.